Vous écoutez RTL.
18h38, suite de RTL Soir avec votre deuxième invité, Marc-Olivier Fogiel.
Deuxième invité d'RTL Soir, il est prêtre, il s'est marié, il est heureux. Bonsoir David Gréa.
Bonsoir.
Vous étiez prêtre, ou vous êtes prêtre d'ailleurs, si on en croit à la couverture de votre livre « Une vie nouvelle aux arènes », car vous le signez père David Gréa, alors que l'Église vous a réduit à l'état de laïque contre votre gré après votre mariage il y a un an. Vous vous définissez toujours comme prêtre aujourd'hui ?
En fait, on est prêtre à vie. C'est-à-dire que l'ordination de prêtre, c'est comme le baptême. On ne peut pas l'enlever. On peut décider de ne pas croire, de ne pas en faire fi. Mm-hmm. Ou on peut nous demander de ne pas exercer le ministère, mais d'accord, on est prêtre à vie.
Donc dans votre tête, j'allais dire, dans votre corps, vous êtes prêtre.
Voilà, je suis un prêtre qui, aujourd'hui, à qui on a demandé, logiquement, de ne pas exercer son ministère.
En février 2017, votre histoire avait fait la une de l'actualité. Vous, le curé lyonnais, anticonformiste, une lettre lue à vos paroissiens avait annoncé votre choix. Ça avait ému tout le monde. Des paroissiens étaient en larmes. Jusqu'à ce livre, vous aviez préféré garder le silence. Votre livre, c'est quoi ? C'est un manifeste pour le mariage des prêtres ?
Non, pas du tout. Au fait, j'ai gardé le silence parce que je voulais pas ajouter à la polémique. Et puis, finalement, qu'est-ce que ça aurait apporté ? Ça aurait tout centré sur moi et je pense que ça aurait pas aidé. Après quelques mois, ce qui m'a semblé intéressant, c'était plutôt de montrer pourquoi cette église-là, à Sainte-Blandine, l'église Lyon Centre, elle est si vivante et elle continue à être aussi vivante aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce qui fait que la plupart des églises, au fait, elles sont juste pas drôles, pas attrayantes, voilà. Enfin, et alors qu'il y a plein de gens de bonne volonté, plein de prêtres, plein de zèles qui s'y donnent. Pourquoi est-ce qu'ici ça bougeait autant ? Et en fait, il y a une vraie actualité de l'Évangile. Et c'est ce que j'ai voulu traduire dans mon livre jusqu'à la manière dont ça concerne ma vie.
On va raconter votre histoire parce qu'on comprendra mieux. D'abord, vous avez 49 ans aujourd'hui, vous êtes né à Lyon dans une famille catholique pratiquante. Vous vous destinez plutôt à devenir éducateur pour jeunes en difficulté sociale. Mais en septembre 90, vous faites une retraite dans le Pays Basque, dans une abbaye. Et là, vous recevez une sorte d'appel de Dieu.
En fait, je dirais pas d'appel, parce que ça fait un peu mystique et tout. Mais c'est plus simple que ça. C'est que j'ai fait un truc que quasiment personne n'a fait. C'est j'ai lu un évangile. En fait, il y a plein de gens qui disent « Ouais, j'ai lu la Bible. » Je sais qu'ils mentent, mais... En fait, c'est 70 pages, un évangile. Moi, c'était l'évangile de Luc, 75 pages à peu près. Et en fait, je l'ai lu parce que je m'ennuyais dans cette abbaye. Je savais pas bien prier, je savais pas quoi faire. Et donc, j'ai lu ça. Et pour la première fois, j'ai découvert un amour que rien n'arrête. Ça m'a scotché. Et je me suis dit « Mais il y a une joie imprenable. » Et donc, je suis revenu voir le moine que je connaissais pas. Et je dis, bah, j'ai lu l'évangile, parce que je m'ennuyais un peu. C'est vraiment génial ce qu'il y a là-dedans. Et lui, il me dit, mais tu veux être prêtre? Et donc, ça m'a beaucoup fait rire.
Mais déjà, à l'époque, votre principale préoccupation, vous qui aviez des petites amies, c'était le célibat.
Non, pas du tout. C'est parce que j'avais une petite amie.
C'est ce que j'ai cru comprendre. C'était votre problématique, pour prendre la voie de la prêtrise.
Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Oui, j'ai pas compris. Ouais.
Vous l'aviez compris à l'envers. Vous aviez une petite amie, voilà, et donc, pour prendre cette voie-là, c'était déjà un problème à l'époque pour vous.
Ah oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai pas eu un appel au célibat. Mm-hmm. Si on peut dire, en tout cas, en me confrontant à cet évangile, j'ai dit, c'est ça que je veux faire.
C'est ça.
Et ce que je voulais faire, c'était donc vivre cet évangile, essayer de partager cet amour-là que j'avais trouvé dans l'évangile, cette joie. Mmh. Et il y a tellement de gens qui sont pris dans des difficultés, dans des relations inextricables. Je me disais, mais il y a vraiment une parole à donner. Et c'est ça qui m'a motivé. Et là, on dit, oui, mais tu sais bien comment ça marche. Si vraiment Dieu t'appelle à être prêtre, il faudra que tu choisisses d'être célibataire. Tu choisisses. Que tu t'engages. On te demandera de t'engager au célibat.
Et au séminaire, on vous a un peu aidé avec cette problématique à laquelle vous étiez déjà confronté.
Ouais, on est bien accompagné au séminaire. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un vase clos quand même. C'est-à-dire, on est entre prêtres, on a beau avoir des stages, des expériences, il y a des moments où c'est un peu difficile. On se dit, mais est-ce que je vais tenir le célibat ? Est-ce que c'est si simple que ça ? Puis après, on se dit, c'est normal, je suis un homme. Donc c'est normal que j'ai ces questions. Et puis au fait, à bien regarder, j'aime ce que je fais, j'aime la perspective d'être prêtre. Allez, on continue.
Vous avez continué, vous avez été ordonné. Et en 2011, vous allez tomber amoureux une première fois. L'histoire n'est pas sérieuse, mais vous écrivez « J'ai reçu la certitude que je ne serai pas célibataire toute ma vie ». Et là, vous en avez d'ailleurs parlé plus tard au cardinal Barbarin, vous entamez une psychanalyse, mais on a l'impression quand même que personne ne comprend vraiment votre mal-être.
Il est entendu en partie, puisque quand le cardinal en entend parler, il m'invite à venir le voir. Mais en fait, il y a vraiment cette idée que si on a vraiment été appelé à être prêtre, ce que l'Église a authentifié pour moi, alors on reçoit avec le don, c'est-à-dire la capacité de vivre le célibat de manière épanouie, heureuse, etc. Donc quand on dit une difficulté, on nous renvoie plutôt à... est-ce que tu prends bien les moyens? Est-ce que tu pries assez? Etc.
Ça a été le regard du cardinal Barbarin face à vos questions. Quand, en décembre 2015, vous faites la rencontre de Magali, une jeune femme protestante, donc des années après cette premier amour, on va dire, comment ça s'est passé pour vous là? Tout de suite, vous avez compris qu'elle allait vous amener en dehors de l'Église?
Non, parce qu'en fait, quand je l'ai connue, je ne suis pas tout de suite tombé amoureux. Et c'est vraiment peu à peu, on a senti que la relation était forte. Et je suis assez prudent, du coup, j'ai plutôt commencé par la voir avec des amis. Enfin, pas être seul avec elle spontanément tout le temps. Et c'est peu à peu que je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas elle, quoi, celle que j'attends?
Et il y a des rumeurs. Le cardinal Barbarin vous convoque et vous explique que finalement, en juin 2016, qu'il va falloir faire attention à cette tentation. Et d'ailleurs, il vous demande de quitter votre appartement seul pour pas que vous franchissiez le cap.
Alors, en fait, il n'est pas du tout au courant de la relation avec Magali, tout simplement parce que je ne suis pas avec elle à ce moment-là. Mais comme ça arrive souvent, il y a des gens qui écrivent sur nous.
C'est ça.
Donc là, il y a une lettre pas anonyme d'ailleurs. Il a discuté avec quelqu'un qui a des responsabilités, on va dire. Et cette personne lui dit « Ah oui, je suis au courant que David a une compagne. » Donc il m'a légitimement demandé ce qu'il en était. Et comme je n'avais pas de compagne...
D'accord, vous ne mentiez pas.
Ah non, pas du tout. Et même au contraire, j'étais encore en discernement. Et je me disais « Est-ce que vraiment je vais plus loin ou pas avec Magali ?» Mais le jour où j'ai vu que lui-même doutait à ce point-là de ma capacité à tenir le célibat, je me suis dit, si lui en doute, c'est qu'il faut vraiment que je m'interroge.
Ça veut dire que ça vous a quasiment fait franchir le pas. Ces interrogations lui ont contribué aux vôtres. En décembre 2016, vous allez en parler ouvertement à Mgr Barbarin. Une fois que vous avez franchi le pas, décision est prise de réclamer un rendez-vous avec le pape François. Ce rendez-vous avait fait beaucoup parler. Comment ça s'est passé avec le pape François ?
Très très simplement. Donc il a une capacité à nous mettre à l'aise qui est tout à fait étonnante. Il m'a beaucoup écouté. Il m'a écouté raconter l'histoire de notre église, pourquoi elle était si vivante, comment moi j'en étais venu à être en couple avec Magali et à choisir de vivre ce couple. Mais tout en demandant à pouvoir rester prêtre, je sais que c'est pas possible, mais je lui ai dit que voilà, c'était le désir de mon cœur. Donc il m'a posé énormément de questions. On ne sait pas souvent, mais en fait, mon chef, c'est pas le pape. Quand on est prêtre, son chef, c'est son évêque.
Ouais.
Donc lui, il n'avait pas d'autorité sur moi, mais en tout cas, il m'a écouté. Et il m'a écouté au point qu'il a demandé si on pouvait se voir une deuxième fois. Et cette fois, c'était avec Magali.
Et là, la décision est prise de vous éloigner entre 3 et 6 mois pour prendre du recul.
Alors c'est Mgr Barbarin qui décide ça après.
Et qu'est-ce qui fait que derrière, finalement, vous avez décidé de vous marier civilement la semaine sainte en avril et que ça a un peu précipité finalement le fait qu'on vous retire votre charge de prêtre?
À partir du moment où subitement on me demande de quitter du jour au lendemain ma paroisse en disant je veux plus que tu célèbres du tout de sacrement ni rien, enfin que tu t'arrêtes, moi je regarde mon avenir, donc puisque mon avenir n'est pas comme prêtre, dans ces cas-là c'est donc mon couple que je mets en premier. Et puis la date de la semaine sainte, c'est tout simplement, enfin, pas que c'était pratique pour la famille de Magali, un mariage civil, ça posait pas de problème.
Donc,
de fond.
Depuis, vous avez été écarté totalement. Vous êtes l'heureux papa d'un petit Léon.
Oui.
Vous êtes reconverti professionnellement?
Je fais du coaching.
Vous êtes,
notamment
aujourd'hui, vous êtes coach de curé.
De dirigeant et de manager. D'ailleurs, j'ai un site qui s'appelle davidgrea.com. Je fais un peu de com parce qu'il faut manger.
Bien sûr. Donc, vous êtes reconverti.
Oui, c'est ça. En fait, je continue à faire l'accompagnement que je savais faire, sauf que je le fais d'un point de vue laïque et plus pro.
Et l'exercice de votre ministère, il vous manque?
En fait, j'y pense pas au quotidien parce que je suis très heureux et qu'il y a mille manières de mettre en œuvre ma foi. Mais donc, il me manque pas au sens propre. Mais si un jour on me proposait d'aller dans une paroisse, j'irais.
Une vie nouvelle, prêtre, marié et heureux. Père, puisque ça reste David Gréa, aux arènes, merci à vous.
Merci.